enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Et nous voulons continuer à louer le nom de Jésus. Le louer parce que son œuvre est merveilleuse. Et j'ai pu me réjouir dans les derniers temps de voir sa main à l'œuvre sur les choses pratiques que l'on trouve et spirituelles, que l'on trouve sur le champ missionnaire. J'étais très encouragé en fin de prédication. On passera quelques photos que j'ai prises au Sénégal. Je suis très encouragé par ce qui se passe en Algérie, très encouragé par ce qui se passe également en Serbie, en Roumanie aussi, un groupe maintenant est en train de se former. Je suis réjoui de voir combien la bénédiction de Dieu suit nos prières et nos requêtes et notre travail. Amen. Je voudrais simplement prendre une parole fantastique avec vous ce matin qui se trouve dans les évangiles, au chapitre 8 et 9 des évangiles. Rassurez-vous, je ne vais pas lire tout le chapitre 8 et 9. Matthieu, pardon. L'évangile de Matthieu, excusez-moi. Jésus redescendait de la montagne d'où il venait d'enseigner les béatitudes. Et puis, au chapitre 8 et 9, à partir de ce chapitre 8, commence une série de guérisons extraordinaires. Et dans ces deux chapitres, on nous relate les guérisons les unes après les autres, avec également des enseignements qui accompagnent ces guérisons. Et nous arrêterons juste courtement sur 5 de ces guérisons qui sont particulières. Cette série de guérisons commence au verset 1er jusqu'au verset 4 par la guérison d'un lépreux. Un lépreux s'approche de Jésus et il demande au Seigneur de le guérir. Et Jésus va guérir le lépreux. Il va le toucher, ce lépreux. Les lépreux, avaient une condition de vie terrible. Ils étaient condamnés à vivre en marge de la société. Ils ne pouvaient pas être en contact avec les gens parce qu'ils étaient considérés, premièrement, comme très contagieux et deuxièmement, comme impurs. Ils étaient impurs et ils n'avaient pas le droit d'avoir de contact avec le monde qui les entourait. Et donc, ils vivaient entre eux, entre lépreux. Et parfois, ils vivaient seuls également. De quoi se nourrissaient-ils ? Ils devaient se débrouiller. Et parfois, des membres de leur famille, de loin, leur jetaient de la nourriture. Parce qu'ils, tout simplement, ils ne pouvaient pas rentrer en contact. Et c'était une situation qui était terrible. Et la lèpre est également une image saisissante d'une autre maladie qu'est le péché. Le péché agit comme la lèpre. Le péché est répugnant, la lèpre est répugnante dans certains cas. Le péché est répugnant, destructeur, contagieux. Et dans certaines formes de la maladie, la lèpre est inguérissable, humainement inguérissable et mène inéluctablement à la mort. Et ce lépreux vient, il se prosterne devant Jésus, il le supplie désespérément de le guérir. Et que va faire Jésus ? Il va enfreindre la loi. La loi mosaïque interdisait le contact avec les lépreux. Et la Bible nous dit, au verset 3, « Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Jésus enfreint la loi, touche le lépreux et il le guérit. Le lépreux devient pur. Jésus va vers le lépreux. La deuxième guérison est surprenante également. C'est la guérison du serviteur d'un centurion qui se trouve, l'histoire se trouve du verset 5 au verset 13. Un centenier romain ou un centurion, comme on veut selon les versions, un centurion romain vient implorer Jésus, pas pour lui-même, mais pour son serviteur qui est malade. Je crois qu'il faut bien analyser le contexte. Ce serviteur est un païen, c'est pas un juif. Il est païen. Et en plus, c'est un soldat représentant la force d'occupation à l'époque. C'est donc quelqu'un qui n'était pas fréquentable par les Juifs. C'était quelqu'un qui occupait le terrain. Et à cette époque-là, à l'époque de Jésus, eh bien, les Juifs se révoltaient contre les Romains et priaient. Et ils voulaient absolument que les Romains partent. D'ailleurs, il y avait de temps en temps des révoltes, des mouvements de révolte. Et à l'époque de Jésus, c'était une époque très agitée dans ce sens-là. Les gens se révoltaient souvent contre les Romains. Et là, ce Romain vient vers Jésus. Jésus est juif. Je fais un parallèle entre l'atmosphère qui devait régner à cette époque-là et l'atmosphère qu'ont connue nos parents et grands-parents pendant la dernière guerre, pendant qu'il y avait l'occupation allemande. Quand je discute avec les anciens, eh bien, en règle générale, en règle très générale, ils n'aimaient pas beaucoup l'occupant, n'est-ce pas ? C'était pour eux quelque chose de pesant. Et quand on pouvait faire des sales coups à l'occupant, eh bien on le faisait. C'est dans cette ambiance-là que devaient certainement vivre les Romains. Très souvent, ils tombaient dans des embuscades. Et c'était donc une situation malsaine, une situation de trouble, une situation pesante qui était là et qui régnait. Et Jésus, à l'égard de ce centurion, aurait peut-être pu ressentir de l'aversion, de la haine. Non, il écoute ce centurion. Et je pense que les gens qui connaissaient Jésus et qui étaient autour de lui ne devaient pas bien comprendre, eh bien, l'attitude de Jésus. Ce soldat était cependant un homme pieux. Et on voit dans le texte comment qu'il expose le cas de son serviteur. Cet homme est frappant par sa compassion et aussi par sa grande foi, au point où Jésus lui-même est étonné. Il est étonné de la foi de ce centurion. Et Jésus va guérir le serviteur de ce centurion. Que pensaient le peuple et les religieux juifs de ce qui venait de se passer ? À mon avis, il y avait sans doute beaucoup de gens qui étaient indignés de ce que Jésus avait fait là. La troisième guérison se trouve dans toujours le chapitre 8, versets 14 et 15. C'est la guérison d'une personne que Jésus connaissait certainement très bien, la belle-mère de Pierre. Il connaissait cette femme parce que Pierre était son ami, un disciple proche, et très souvent Jésus habitait à Capernaum. Cette femme avait de la fièvre, et Jésus la touche, et à l'instant même, elle est guérie. Elle est guérie au point que, instantanément, même que la fièvre nous laisse généralement fatigués et on se remet pas instantanément d'une fièvre, eh bien, instantanément, cette femme se lève et elle sert Jésus, elle sert les gens qui sont là. Et c'était sa façon d'exprimer sa gratitude pour ceux ce qu'il avait fait en sa faveur. Et dans la foulée, dans la même journée, le même soir, la Bible nous dit, du verset 16 au verset 17, elle nous dit que on lui emmena ce jour-là des démoniaques, des malades, tous des juifs qui étaient là. Et puis, la Bible nous dit au verset 16, ici, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Jésus là est en train d'accomplir la prophétie d'Isaïe qui prévenait de ce qui allait arriver, de la bonne nouvelle qui allait arriver. Puis ensuite, Jésus quitte le territoire et va en territoire étranger. Il part en territoire étranger, il va chez les Gadaréniens. Versets 28 à 34. Vous pourrez lire toutes ces histoires en détail chez vous. La Bible nous dit, lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Imaginez un peu ces deux hommes. Ils étaient si furieux que les gens, les passants ne venaient pas dans ce secteur. Ils ne venaient pas. Ils habitaient dans des sépulcres, donc dans des endroits où on enterrait les morts. Et que quand on voulait enterrer un mort, eh bien, il fallait choisir un autre coin parce qu'ils étaient si furieux que ces personnes étaient dangereuses. Une fois de plus, nous sommes là dans une situation particulière. Parce que Jésus n'est pas en territoire juif, il est chez des étrangers. Et pour preuve, lorsque Jésus a chassé les démons sont entrés dans un troupeau de pourceaux. Et chez les juifs, Vous n'aurez jamais trouvé un troupeau de pourceaux parce que c'était un animal qui était considéré, et c'est toujours un animal considéré comme impur. Les Juifs et les Gadaréniens n'avaient pas de relation, ou pas beaucoup. La présence de ces porcs nous indique qu'il était en terre étrangère. Et Jésus, en guise de remerciement, va être rejeté. On va lui dire, écoute, va-t'en d'ici, on a peur. Va-t'en. Et Jésus s'en va. Et puis au chapitre 9, on ne prendra plus qu'un seul miracle là. Jésus va guérir là un homme qu'on lui amène, paralytique. Un autre évangile, l'évangile de Marc, nous raconte que cet homme a été transporté par ses amis. Pendant que Jésus parlait, lorsque Jésus prêchait dans la foule, dans une certaine maison, eh bien, tout d'un coup, des saletés ont commencé à tomber sur sa tête, parce qu'en haut, il y avait des gens qui étaient en train d'arracher le toit pour faire passer un paralytique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus de place dans la maison. Et Jésus ne leur a pas dit, « qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez là, vous allez casser la maison ?» Non, il voit la foi de ces hommes. Il voit la foi de ces hommes et il va guérir ce paralytique. Il va guérir ce paralytique et il va rajouter quelque chose d'extraordinaire. Il va lui dire, je pardonne tes péchés. Il va lui pardonner ses péchés. Et pourquoi Jésus a fait cela ? Eh bien pour prouver aux religieux qu'il était réellement le Fils de Dieu. Les religieux contestaient l'autorité, la puissance de Jésus. Ils jalousaient la puissance de Jésus et ils s'opposaient à Jésus-Christ. Il parlait là aux religieux. Il était en train de leur montrer combien lui était capable non seulement de guérir les malades, mais de pardonner également les péchés, de pardonner nos péchés et de nous donner accès à la vie éternelle. Le lépreux était un homme qui était potentiellement dangereux pour la société. Nous allons faire juste quelques constats après l'analyse de ces 5 guérisons. Ces personnes sont toutes différentes. Les personnes que nous avons citées sont différentes, autant par leurs origines que par leurs souffrances. Nous voyons que Jésus n'a fait exception d'aucun d'eux. Il ne fait exception de personne. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est qu'en est-il de nous ? Est-ce qu'en réalité, je ne fais exception de personne ? Ce lépreux potentiellement dangereux à cause de sa contagion n'était certainement pas beau à voir. Il était rejeté par la société. Qu'a fait Jésus ? Il l'a aimé. Il l'a aimé au point qu'il l'a touché et qu'il l'a guéri. Il l'a aimé. Qu'en est-il de nous face aux lépreux modernes, aux gens qui sont rejetés par la société, aux gens qui, peut-être, sont lépreux dans leur cœur, repoussant à cause de leur précarité. La précarité entraîne souvent la saleté, le dénuement. Quelle est notre attitude face à ces lépreux modernes ? Alors bien sûr, je ne parle pas là des escrocs, et il y en a, des gens qui se font passer pour pauvres et qui ne le sont pas. Par expérience, je peux dire que les vrais pauvres ne vous demanderont jamais rien. Par contre, ce que Jésus nous demande, c'est d'aller les chercher, les vrais pauvres, et de nous occuper d'eux, d'en prendre soin. Et avec mon épouse, souvent, nous faisons cette prière, « Seigneur, s'il y a des gens que nous pouvons aider, que nous devons aider, montre-le-nous, et croyez-moi, il le fait. » Et nous avons eu l'occasion de le faire bien souvent, et je crois que nous sommes appelés à le faire de plus en plus souvent. Mais souvenons-nous, ce ne sont pas les gens qui demandent. C'est à nous d'observer. Jésus a vu ce lépreux. Même si ce lépreux s'est mis à genoux en le suppliant de le guérir, Jésus aurait pu invoquer la loi et lui dire, écoute, je peux pas. La loi est contraire. Et c'était juste, il aurait pu dire cela. Il aurait pu se mettre derrière la loi. Non. Son amour pour cet homme est allé plus loin. Son amour l'a guéri. Qu'en est-il de nous face aux rejetés ? Je me souviens, il y a à peu près une année de cela, un homme est venu, m'attendait à la fin d'un dimanche matin, fin d'une réunion, fin d'un culte. Cet homme était rayonnant de joie. Et puis, il me prend dans les bras, il m'embrasse et me dit « Pasteur, je suis tellement heureux, c'est la première fois que je viens dans une église. » Je dis « Ah bon ?» Il me dit « Mais je connais le Seigneur depuis longtemps. » « Ah bon ?» Et puis il m'explique que, eh bien, il a fait quelque chose de terrible dans sa vie et il s'est retrouvé dans la prison d'Ensisheim. Et il ne connaissait pas le Seigneur quand il est arrivé dans cette prison. C'était un homme violent. Il m'a dit un jour, un gardien s'est approché de lui et lui a parlé de Jésus. Et sa réaction a été terrible. Il a pris cet homme au collet, il l'a plaqué contre le mur. Il lui dit « Si tu me parles encore une fois de religion ou de Jésus, je t'écrase la tête. » Ce gardien lui a dit « Ok, je te parlerai plus jamais, je te laisserai tranquille. » Et plus jamais lui a adressé la parole, ça a duré des mois. Mais ce simple fait a troublé le cœur de ce prisonnier. Et c'est lui-même, au bout d'un certain temps, qui a harangué le gardien, lui a dit « Écoute, toi, l'autre jour, tu voulais me parler de Jésus. Qu'est-ce que tu voulais me dire ?» Et le gardien ne lui a rien répondu du tout. Un peu comme s'il était fâché. Mais en réalité, il n'était pas fâché. Il a fait quelque chose de très intelligent. Le lendemain matin, quand on a servi le plateau repas à cet homme, il y avait sur le plateau repas un évangile, un Nouveau Testament. Et il m'a dit, j'ai commencé à lire ce Nouveau Testament. Je l'ai lu, je l'ai relu, et j'ai commencé à découvrir qui était réellement Jésus, et j'ai commencé à aimer Jésus. Et une nuit, alors qu'il était en train de parler, il dit « Moi, je ne savais pas prier, je ne suis jamais allé dans une église, je ne savais rien. J'ai parlé à Jésus tout simplement, comme un brigand peut parler à quelqu'un d'inconnu qu'on ne voit pas. Et là, dans ma cellule, j'ai vu une grande lumière, tout d'un coup. Et j'ai vu un être blanc qui m'a touché. Et à partir de ce moment-là, j'étais complètement libéré. Il m'a dit « Vous voyez, pasteur, je suis prisonnier, enfermé dans une cellule, mais je suis le plus libre des hommes. » Extraordinaire. Cet homme avait eu une permission de 48 heures, parce qu'il s'est marié en prison. Et la première chose qu'il a fait, c'est de venir ici, dans cette église. Je ne sais pas pour combien de temps il en a encore à purger sa peine. Peu importe. Ce qui est important, c'est que cet homme ait rencontré Jésus. Lui, un brigand, je ne sais pas ce qu'il a fait, ça ne m'intéresse pas. Peut-être qu'il a fait quelque chose de très grave. Il m'a dit qu'il en avait pour minimum 15 ans. Donc on peut imaginer le pire, mais cet homme est pardonné, cet homme est heureux, il était rempli de la joie de Jésus-Christ. Écoutez ce que nous dit Ésaïe au chapitre 58 à partir du verset 7. Ésaïe 58, voilà ce qui nous est dit, ce que l'Éternel nous dit dans sa parole. Ésaïe 58, verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras l'Éternel et il répondra. Tu crieras et il dira « Me voici si tu t'éloignes, si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides. » Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Quel programme extraordinaire! Est-ce que vous avez envie de cela? Amen. Mais avant, donne ton pain à celui qui a faim. Ouvre ta porte. Ouvre la porte de ton cœur. Sois généreux et l'Éternel pourra te bénir et il te donnera en abondance. Confronté au centurion romain, homme considéré comme un occupant et un ennemi du peuple juif, qu'a fait Jésus? Une fois de plus, il l'a aimé. Quelle est l'attitude face à nos ennemis? Quelle est notre attitude face à nos ennemis? Comment réagissons-nous? Tu m'as fait du mal? Eh bien c'est fini, je ne te parlerai plus. C'est terminé. Je ferai le sourd. Et si je peux t'embêter, je le ferai. Mais je sais que vous ne faites pas ça, je suis le seul à le faire. Quelle attitude avons-nous face à nos ennemis? Sommes-nous capables d'aimer nos ennemis? Avons-nous essayé de les comprendre, de comprendre leur attitude et leur motivation à notre égard? Peut-être on ne comprend même pas pourquoi ils sont devenus nos ennemis. Je crois que parfois ça vaut la peine de comprendre pourquoi et de nous analyser nous-mêmes et peut-être de rectifier le tir. Jésus nous montre que nous devons aimer nos ennemis. Seigneur, c'est trop dur. C'est trop dur d'aimer ses ennemis, c'est ce que j'ai dit souvent. C'est trop dur. Écoutez, cette voix qui nous dit, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Être imitateur de Jésus, c'est pas limité en partie, c'est limité dans tout son message. Dans tout son message. Que dire de l'attitude de Jésus et de la délivrance de ces deux hommes gadaréniens? Dans ce cas précis, je l'ai dit tout à l'heure, Jésus était à l'étranger, en territoire étranger, pour apporter la délivrance à ces hommes, pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile, ces hommes qui étaient sous l'emprise de démons. N'est-ce pas là un appel qui nous est fait ce matin pour aller travailler à l'étranger, pour aller sauver les gens, annoncer la bonne nouvelle à des gens qui sont sous une oppression diabolique, démoniaque, à des gens qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Je crois que c'est un appel que Jésus nous lance, d'aller à l'encontre de ceux qui ont faim et soif de Dieu, et qui ont aussi faim et soif physiquement. C'est ce que Jésus a fait, et Jésus nous montre le chemin. Marc 16, verset 15, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » C'est un devoir que nous avons. Bien sûr, nous devons travailler dans notre pays de France, mais Dieu nous envoie partout dans le monde. Sommes-nous capables d'aimer celui qui a une autre culture que nous? Bien souvent, la culture des autres nous dérange, même dans notre propre pays. Et la culture différente est souvent une barrière pour la discussion, une barrière pour l'affection, une barrière qui cause souvent des disputes, des bagarres et parfois des guerres. Dans le texte que nous avons vu, ensemble, dans ce chapitre, nous voyons que Jésus ne fait aucun cas de la culture. Et nous aussi, nous devons faire aucun cas de la culture parce que Jésus n'a pas de culture. Jésus est le Fils de Dieu, et il est venu pour tous les hommes, quels qu'ils soient. Et seule la parole de Dieu est la vraie culture. Ne pensons pas que nous avons une culture meilleure que la culture de tel ou tel pays africain. C'est notre jugement à nous. Ce qui est important, c'est pas notre jugement, c'est le jugement de Dieu. Et la vision que Dieu a pour le monde qui nous entoure. Il y a certes de bonnes choses dans notre culture, mais il y en a certainement de très mauvaises. Et on en a la preuve en ce moment, au point où nous sommes obligés de réagir à cause de notre culture. Sommes-nous capables d'aimer celui qui a une autre couleur, une autre peau, un autre langage? C'est l'appel que Jésus nous envoie ce matin et je vous dis, je suis très fier de ce que je vois dans l'Église. Je suis très fier de voir combien de personnes s'impliquent justement pour le champ, pour le terrain missionnaire. Combien de personnes travaillent sur le terrain, mais aussi en arrière. Combien de personnes, j'ai été réjoui la semaine dernière quand il y a eu la vente missionnaire, de voir tout le travail qui a été fait par des dizaines et des dizaines de personnes. Et combien j'ai été heureux de voir que des centaines de personnes sont venues s'intéresser à ce qui a été fait et ont participé indirectement en achetant quelque chose pendant cette vente de Noël. Au profit des œuvres missionnaires, je suis fier de vous, je le dis ce matin, heureux. Heureux de voir que l'Église a compris le message de l'Évangile. Et ce matin, mon propos est d'aller encore plus en avant. Je suis fier de voir tout ce qui a été fait dans les temps derniers en Algérie et le développement des églises en Algérie. Mais cela se fait que grâce à vous, que grâce à notre action, que grâce à notre travail, que grâce à notre porte-monnaie aussi. Parfois, on a des oursins dans le porte-monnaie, hein. C'est ce que ma fille a dit à son grand-père l'autre jour. Mon père a acheté un cadeau lorsqu'on était en Israël, il a acheté un cadeau à ma mère. Et ma fille, ma petite Priscilla, a été très surprise. Et elle dit à son grand-père, « Eh papy, t'as enlevé l'oursin que t'avais dans le porte-monnaie ?» Et grand-père, il n'était pas heureux, hein. Parfois, on a des oursins dans le porte-monnaie. Moi, j'ai compris une chose avec le Seigneur. Si on est prêt à lui donner à lui pour son œuvre, on n'est jamais trop court. Jamais, jamais. J'ai fait des dizaines et des dizaines d'expériences dans ce domaine-là et je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux de voir tout le travail qui a pu se faire pendant ces temps. J'ai tellement été heureux de voir ce qui s'est fait également, eh bien, cette semaine avec ces lits, ces conteneurs. Même si ça nous coûte du temps, de l'énergie, même si on avait les doigts gelés, les pieds gelés, les efforts de chacun sont récompensés. Et on rentre dans le cadre d'Ésaïe, parce qu'on donne à celui qui a faim, on donne à celui qui est malheureux. J'ai été heureux de voir avec mes frères et mes sœurs qui nous ont accompagnés l'autre jour au Sénégal, tout le travail qui se faisait là-bas. Heureux de voir combien que l'Église avance en maturité, et combien bientôt elle va grandir en nombre et en puissance, je le crois. La tâche est énorme, elle est immense. Mais on tient le bon bout. Parce qu'une équipe comme la nôtre en mouvement, quand je parle d'équipe comme la nôtre, je ne parle pas des pasteurs, je parle de vous tous. Tous ceux qui vous êtes impliqués de près ou de loin dans la mission, on va faire des choses extraordinaires.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.